Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. La Knesset, le Parlement israélien, a rouvert ses portes hier malgré la pause estivale. Une session extraordinaire sur demande de l'opposition pour débattre à nouveau de la loi dite « État-nation du peuple juif ». Le texte, adopté le 19 juillet, divise profondément la société israélienne. Il stipule, je cite, « qu'Israël est le foyer national du peuple juif dans lequel il exerce son droit naturel, culturel, historique et religieux à l'autodétermination. Il fait aussi de l'hébreu la seule langue officielle du pays, reléguant l'arabe à un statut spécial. Alors pourquoi cette nécessité aujourd'hui de réaffirmer l'identité juive du pays? Faut-il y voir une remise en cause de l'égalité entre les citoyens israéliens, qu'ils soient juifs ou non? Le fait est que cette loi a provoqué la colère et l'inquiétude des minorités arabes et druzes. Ils représentent aujourd'hui 17,5% de la population et s'inquiètent de devenir, disent-ils, des citoyens de seconde zone. Alors Israël, la démocratie est-elle fragilisée ? Eh bien, c'est la discussion que nous aurons ce soir jusqu'à 19h. Et ils sont trois invités dans Du Grain à Moudre d'été. Sammy Cohen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche émérite au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, le CERI. Vous êtes spécialiste des relations internationales et des questions de défense. Vous êtes auteur notamment de « Israël et ses colombes », une enquête sur le camp de la paix. C'était publié aux éditions Gallimard en 2016. Et puis, vous travaillez actuellement à un livre sur la démocratie en Israël. Notre deuxième invité est au téléphone depuis Tel Aviv. Il s'agit d'Emmanuel Navon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Vous êtes membre du Likoud et du forum Kohelet. Je le prononce bien, Kohelet.
C'est ça.
C'est un think tank qui a notamment participé à la conception et la promulgation donc de la loi Israël État-nation. Et puis notre troisième invité, il s'agit de Frédéric Chilot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous en duplex, vous, depuis Jérusalem. Vous êtes historienne, spécialiste d'Israël et des relations internationales. Vous êtes auteur notamment de « La guerre du Kippour n'aura pas lieu ». C'était aux éditions André Versailles en 2013. Et puis vous avez aussi contribué à l'ouvrage « Jérusalem, histoire, promenade, anthologie et dictionnaire ». Et c'est à paraître en octobre aux éditions Robert Laffont. Et la première question est pour vous, Frédéric Chilot. Cette loi sur l'État-nation, est-ce qu'on peut parler d'une petite révolution en Israël, à quel point est-ce qu'elle modifie, selon vous, la nature de l'État hébreu ?
C'est une petite révolution par les débats qu'elle suscite aujourd'hui. En réalité, sur le fond, il n'y a pas de révolution. Sur le fond, le fait de dire Israël est une nation du peuple juif, ça n'est pas un scoop pour les Israéliens, ça n'est un scoop pour personne. Israël a été pensé, a été fondé comme un État pour le peuple juif, l'État des Juifs, écrivait Herzl, et c'est tout l'idée du sionisme que de faire un État refuge des Juifs du monde entier où le peuple juif pourra être sécularisé sur la terre d'Israël. Ça, c'était dans la déclaration d'indépendance de Ben-Gurion en 1948. Et toutes les valeurs qui sont décrites dans cette loi, les valeurs juives, que ce soit dans les 11 articles, que ce soit le drapeau, la tikva, l'hymne national, que ce soit le shabbat, l'hébreu, comme langue officielle, tout cela figurait déjà dans la déclaration d'indépendance. Là où il y a une révolution, là où il y a polémique et voire un scandale, c'est que la loi nie totalement ce que les fondateurs de l'État d'Israël avaient eu tant de mal à créer, c'est-à-dire maintenir un équilibre entre un État juif et un État démocratique. Parce que dans la déclaration d'indépendance, il était indiqué que cet État est un État juif, un État pensé pour le peuple juif, mais dans la plus complète égalité sociale et politique de tous ses habitants, sans distinction de religion, de race ou de sexe. Cite là la déclaration. Eh bien, tout cela a disparu dans la loi État-nation qui a été signée la semaine dernière.
On va réagir tout de suite à ce que vous venez de dire. Emmanuel Navon, si la nature juive de l'État d'Israël était déjà présente dans les textes fondateurs, pourquoi avoir eu besoin de la réaffirmer? Quel était, selon vous, le manque qui était à combler? Y avait-il un manque, Emmanuel Navon?
Oui, il y avait un manque parce qu'Israël, malheureusement, n'a pas de constitution écrite après 70 ans d'indépendance. À la place de constitution, Israël a 14 lois fondamentales auxquelles la Cour suprême a attribué un statut constitutionnel. La déclaration d'indépendance n'a pas non plus valeur de loi et valeur constitutionnelle suite à une décision de la Cour suprême en 1948. La nouvelle loi qui a été votée n'est pas une constitution. Il s'agit d'une loi fondamentale qui ne fait que compléter un arsenal d'autres lois fondamentales qui, elles, déterminent la nature démocratique et égalitaire du pays. Cette loi fondamentale ne les remplace pas, elle les complète. Et par conséquent, elle ne remplace pas non plus la déclaration d'indépendance, dont les principes d'égalité ont été repris pas seulement dans les autres lois fondamentales, mais également dans la jurisprudence de la Cour suprême. Et par conséquent, cette loi ne remplace ni la déclaration d'indépendance, ni les autres lois fondamentales, elle ne fait que la compléter. Et je dis, on l'a complétée en rappelant que les constitutions des États-nations, en particulier en Europe, font en général trois choses. Elles définissent la nature de l'État, son identité, la séparation des pouvoirs, et également la protection des minorités et des droits individuels. Nous avons déjà des lois fondamentales sur la protection des droits individuels, sur la séparation des pouvoirs, mais nous n'avions pas de loi fondamentale sur l'identité et de l'État. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? À cause de l'activisme judiciaire de la Cour suprême ces deux dernières décennies, qui fait que de plus en plus la Cour suprême a posteriori annule des lois de la Knesset, et que les lois qui ont trait à l'identité nationale de l'État sont menacées aujourd'hui, et donc il fallait compléter l'arsenal constitutionnel d'Israël.
Je vais donner tout de suite la parole à Sami Cohen, mais une question encore, Emmanuel Navon. Est-ce que selon vous, l'identité juive d'Israël était menacée ?
Je ne dirais pas l'identité juive d'Israël, je dirais les lois qui ont trait à l'identité d'Israël comme État-nation, par exemple, la loi du retour. La loi du retour elle-même n'est pas égalitaire. La déclaration d'indépendance en appelle au rassemblement des exilés. Ça n'est pas quelque chose d'égalitaire. C'est quelque chose qui peut être contesté à la Cour suprême en disant il y a là un manque d'égalité, ou même également l'hymne national qui ne parle que du retour à Sion et qui par conséquent n'exprime pas les aspirations nationales des Arabes d'Israël. Cela est contestable à la Cour suprême et pourrait, à la lumière de l'activisme judiciaire de la Cour suprême ces deux dernières décennies, être annulé par la Cour suprême. Et cette nouvelle loi fournit à la Cour suprême la base constitutionnelle pour protéger les lois non fondamentales qui ont trait à l'identité d'Israël comme État-nation.
Sami Cohen.
Écoutez, je voudrais vous dire que d'emblée, il y a un aspect qui manque dans la présentation de cette loi. Vous avez bien cité le fait que c'est une loi qui prévoit l'autodétermination. Cela étant, il manque une toute petite clause. C'est que cette loi, il est dit clairement qu'elle est réservée au peuple juif. Et ça, c'est la clause fondamentale. Si c'était juste une loi qui permettait à créer ce lien entre le peuple juif et l'État d'Israël, ça ne pose aucun problème. Le fait que c'est réservé au peuple juif, là, ça crée une véritable inégalité. Et là, il faut décider, est-ce que Israël est une démocratie? Et à partir de ce moment-là, est-ce que la démocratie implique une égalité des droits entre majorité et minorité, majorité et toutes les minorités, quelles qu'elles soient, ou pas? Si, à partir du moment où cette loi crée une espèce de clivage entre la majorité juive, qui se voit conférer tous les droits sur l'État d'Israël, et la minorité dont il n'est rappelé aucun droit. Là, on n'est plus en démocratie. Je dirais même qu'on est dans une régression démocratique. Parce que il faut bien prendre en considération le fait qu'Israël, pendant ces trois dernières décennies, années 70, 80, 90, on a connu en Israël une avancée démocratique exceptionnel, renforcement de la société civile, élargissement du droit des minorités, notamment du droit des Arabes, renforcement de la Cour suprême, de la capacité d'intervention de la Cour suprême, tout ça était des atouts de la démocratie. Ce qui se passe, parce qu'il faut se poser la question, pourquoi maintenant? Pourquoi ça émerge maintenant? Pourquoi ça n'a pas émergé il y a 10 ans, sous Ariel Sharon, sous Barak, sous Rabin? C'est très simple. Il y a une chose fondamentale. On constate depuis 2009, avec l'arrivée d'une droite et d'une extrême droite au pouvoir, qu'il y a une volonté très nette de grignoter les contre-pouvoirs. Il y a, on voit constamment émerger des lois contre les ONG qui tentent à les affaiblir, à les disqualifier, des lois contre la liberté d'expression. On n'a plus le droit en Israël, par exemple, de critiquer le. On n'a plus le droit d'appeler à boycotter Israël, à boycotter les colonies. C'est interdit. Et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, simplement pour terminer sur ce point-là, c'est que la loi de l'État-nation, elle ne peut pas être comprise simplement en tant que telle. C'est une loi qui s'inscrit dans un continuum qu'on voit apparaître en 2009 et qui n'est pas terminé.
Emmanuel Navon, vous vouliez réagir et puis je donne après la parole à Frédéric Chilot.
Je souhaite préciser que, évidemment, chacun a droit à ses propres opinions et pas à ses propres faits. Il est faux, tout simplement faux, de dire qu'il y a une loi aujourd'hui en Israël qui interdit de boycotter les implantations. C'est faux. Il y a une loi qui a été passée qui permet aux habitants des colonies de poursuivre pour des dommages et intérêts financiers et matériels si leur société est boycottée. Mais cela n'interdit pas le boycott. Simplement, les victimes du boycott ont droit de demander au tribunal des dédommagements. Je rappelle que le boycott est interdit, en revanche, en France. C'est illégal de boycotter en France, mais ce n'est pas le cas en Israël. Donc mettons-nous d'abord d'accord sur les faits et soyons précis.
Frédéric Chilot, pour revenir sur ce que disait Sami Cohen, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que cette loi est en fait le fruit d'un continuum et le fruit de d'autres lois qui ont été mises en place ces dernières années par la coalition au pouvoir Benjamin Netanyahou, je rappelle, est au pouvoir depuis 2009 avec des coalitions différentes. Mais voilà, est-ce que la loi État-nation du peuple juif, pourquoi arrive-t-elle maintenant et est-elle en lien avec ce qui s'est passé précédemment ?
Oui, évidemment, il y a une volonté de la part des gouvernements Netanyahou de changer le dispositif législatif, de modifier aussi les équilibres dans l'état de droit. Pour ses opposants, le gouvernement Netanyahou veut mettre à mal l'état de droit, puisqu'il y a même des lois pour pouvoir contourner les décisions de la Cour suprême. Et vous me demandiez tout à l'heure si c'est une révolution. Les législateurs, le gouvernement Netanyahou le souhaite comme une révolution qui serait en fait une contre-révolution. Une contre-révolution contre ces lois libérales des années 90 et notamment, d'ailleurs Emmanuel Navon l'a mentionné tout à l'heure, la loi Dignité et Liberté de l'Individu qui a été adoptée en 92. Toutes ces lois libérales qui retournent en fait à l'individu, qui en reviennent à la liberté, aux libertés fondamentales de l'individu, du citoyen, contre cette dimension ethnique, nationale, juive, vous voyez, de l'État. Pour, en fait, c'était des lois pour tous les citoyens, les Israéliens. Eh bien là, ça a été pensé comme une revanche. C'est une revanche de l'histoire pour les législateurs au pouvoir maintenant, que de changer les lois et de changer les équilibres aujourd'hui. La question, c'est comment cette loi va être appliquée. En réalité, c'est une loi fondamentale, mais la Cour suprême a encore son mot à dire, et d'ailleurs elle est saisie par de nombreuses minorités, que ce soit les Druzes, les premiers, ensuite les Bédouins, aujourd'hui même c'était les Palestiniens, les Arabes israéliens, aujourd'hui même les catholiques, l'Église catholique se saisit de cela, et donc la Cour suprême va avoir son mot à dire. L'objectif ultime du gouvernement Netanyahou des illibéraux, disons, eh bien, c'est de changer en fait la Cour suprême, d'y mettre de nouveaux juges, voire complètement de l'écarter pour faire des lois qui permettent de contourner ces décisions. Et donc la Knesset aura le mot final sur chaque décision.
Il y a eu beaucoup de manifestations hein, ces derniers jours, des minorités que vous mentionnez. Effectivement, beaucoup les Druzes, on en a beaucoup entendu parler, mais les Arabes israéliens également. Emmanuel Navon, est-ce que vous entendez les critiques? Est-ce que vous comprenez ces manifestations et ces inquiétudes quand les minorités disent « on a peur de devenir des citoyens de seconde zone »
D'abord, soyons précis là aussi, tous les Druzes et toutes les minorités en Israël ne s'opposent pas à cette loi. Très loin de là, le ministre israélien de la communication, Ayoub Kara, est druze. Il a voté en faveur de la loi. Il a expliqué son vote de la façon suivante, je cite, je veux un État juif parce que c'est uniquement grâce à l'État juif que les Druzes sont libres et ne sont pas massacrés comme ils le sont en Syrie. Le président de l'association des chrétiens araméens d'Israël, Chaïb Choukri, a dit également qu'il était en faveur de cette loi parce que pour lui, l'État d'Israël ne peut être démocratique que s'il est juif. Et par conséquent, il faut mettre les choses dans leur perspective. Il y a une critique, bien entendu, même au sein de la population juive israélienne, puisque l'opposition en Israël, dans sa majorité, s'oppose à cette loi. Cette critique, elle vient pas seulement de la population arabe et druze, elle vient également de la population juive, mais il y a également un soutien, comme je l'ai rappelé, aussi bien au niveau des druzes, de nombreux druzes, que de nombreux arabes chrétiens.
Alors on entend, Emmanuel Lavonne, pardon, on entend donc que toutes les minorités ne sont pas opposées à cette loi, on a entendu. Pour ceux qui le sont, pour ceux qui manifestent, je vous repose la question, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous entendez leurs inquiétudes? Et qu'est-ce que vous répondez?
Je vous pose la question, qu'est-ce qui dans la loi vous dérange? Puisque la loi ne fait que dire ce que disent 17 constitutions européennes, à savoir qu'elle proclame l'indépendance au nom d'un peuple, comme l'a fait la déclaration d'indépendance d'Israël, et ne fait que codifier l'hymne national, le drapeau et la langue officielle, comme le fait l'article 2, par exemple, de la Constitution de la Ve République en France. En ce qui concerne la langue, je vous rappelle que la langue arabe, contrairement à un mythe répandu, n'a jamais eu de statut officiel en Israël, que le législateur n'a jamais statué sur le statut de la langue hébraïque et arabe. La Cour suprême elle-même a statué à de nombreuses reprises en obligeant l'État à utiliser l'arabe aux côtés de l'hébreu dans la signalisation de nombreux villages en Israël, mais la Cour suprême elle-même a rejeté en 2002 un pourvoi en cassation de l'organisation Adala qui exigeait que la décision de la Cour suprême soit publiée en arabe. Donc l'arabe n'avait pas de statut officiel. La nouvelle loi dans l'article 10 dit que l'arabe a un statut spécial qui sera préservé, que rien ne portera atteinte au statut spécial de la langue arabe en Israël. Cela est préservé et l'article 10 précise que toutes les minorités en Israël ont le droit de déterminer leur jour de repos et de chômer pendant leurs fêtes religieuses et que l'État préservera cela.
Des garde-fous, des mesures pour préserver les minorités, Sami Cohen?
Écoutez, je voulais revenir un peu sur la contestation des Druzes. Je ne suis pas sûr de suivre tout à fait le raisonnement d'Emmanuel Lavonne parce que son propre gouvernement, le chef de son propre gouvernement, Benjamin Netanyahu, le chef du parti Le Foyer Juif, Naftali Bennett, ont tous les deux reconnu qu'il y avait une faiblesse dans cette loi, dans la mesure, elle avait oublié tout simplement de prendre en considération le cas des Druzes. Tous les deux l'ont affirmé. D'ailleurs, suite à la protestation des Druzes, le Premier ministre a rencontré les différents responsables de la communauté druze en essayant de trouver une quelconque solution. Ça ne marche pas tellement. Ça ne marche pas tellement parce que le fond du problème est là. Ça crée une discrimination à l'intérieur de la société israélienne. Cette discrimination, ce qui est grave, c'est qu'elle est inscrite dans une loi fondamentale qui a une valeur constitutionnelle. Ce n'est pas une loi ordinaire qu'on peut changer du jour au lendemain. C'est quand même très important. En ce qui concerne la langue, si on essaye d'amoindrir cette clause concernant la langue, je voulais savoir, mais pourquoi y a-t-on touché? Il y a bien une raison. Si on l'a touché parce que il n'y a pas une grande différence avec le passé. Si il y a une grande différence, c'est le poids symbolique de cette clause qui s'inscrit dans un ensemble. Cet ensemble, en fait, s'inscrit dans une politique de la droite et de l'extrême droite qui consiste à dire sur cette terre d'Israël, nous avons tous les droits prioritaires, vous venez après. Ça vient d'être inscrit très clairement maintenant. Voilà, il faut comprendre les choses de manière assez large et ne pas essayer de regarder chacune des clauses par le petit bout de la lorgnette.
Frédéric Chillot, sur cette question de la langue, c'est une question symbolique avant tout, mais c'est une question symbolique qui va avoir des effets concrets pour les citoyens israéliens à l'avenir.
Je suis pas certaine que demain on enlève tous les panneaux de signalisation qui sont dans les deux langues ou même en anglais également. Mais ça a des effets et la langue arabe était, quoique Emmanuel Navon veuille le dire, c'était la langue officielle. Il suffit de regarder le site du ministère des Affaires étrangères israélien. Il y a deux langues officielles. L'hébreu et l'arabe, et cela restera jusqu'à ce que le président de l'État promulgue la nouvelle loi. Cette langue arabe était en fait un héritage du mandat britannique, et elle était langue officielle, de même que l'hébreu et l'anglais à l'époque. Elle a ensuite été prise dans le bagage législatif du nouvel État en 1948, et la Cour suprême, oui c'est vrai, a statué souvent. Et d'ailleurs en 2000, elle a statué sur le fait que, eh bien, l'arabe devait être étendu et son usage devait être étendu, notamment pour les appels aux urgences sanitaires, les questions des médicaments, les étiquettes alimentaires. Il y avait une saisie de la Cour suprême sur le fait qu'il y avait peu d'informations en arabe, et donc la Cour suprême l'a dit. Et d'ailleurs, les tentatives de dévaloriser l'arabe, qui ont eu lieu déjà en 2008, en 2009, avaient toutes été défaites, avec l'idée que c'était une tentative aussi de détruire un héritage quand même palestinien. Donc la langue arabe était vraiment une langue officielle. Maintenant, sur la question des druzes, on peut trouver quelques personnes, quelques leaders qui approuvent la loi. Mais c'est vrai, là il y a quand même quelque chose d'important, c'est que les druzes en réalité sont divisés sur les moyens de faire face à cette loi que État-nation telle qu'elle existe aujourd'hui. Et il y a deux possibilités, alors soit l'abrogation, et les druzes n'y pensaient pas tout de suite, soit un amendement, et voire même un pacte séparé. Et certains des leaders druzes étaient prêts à le faire, sans tenir compte d'ailleurs des droits et des demandes des autres minorités. Ils étaient prêts à signer avec Netanyahou un accord séparé pour se voir reconnaître des droits. Mais il y a aussi l'idée de revenir à la déclaration d'indépendance. Et là, c'est toute l'opposition, notamment l'Union sioniste, Tzipi Livni. Et hier, à la Knesset, pendant ce débat, eh bien, l'opposition brandissait le texte de la déclaration d'indépendance parce qu'il faut, selon eux, en finir avec cette loi et en revenir au texte fondamental.
Encore une question sur la question des druzes. Emmanuel Navon, on présente cette minorité un peu comme l'exemple typique, enfin l'exemple par excellence de la capacité d'Israël à faire vivre en son sein une minorité arabe et musulmane en bonne intelligence dans l'État hébreu. Pourquoi avoir risqué de se mettre à dos cette minorité?
Vous savez, j'ai déjà expliqué plusieurs choses depuis le début de cette interview, et vos interlocuteurs répètent les mêmes inexactitudes comme si je ne les avais pas expliquées. J'ai déjà expliqué que la langue arabe n'a jamais eu de statut officiel en Israël. Il y a une différence entre un statut particulier reconnu par la Cour suprême et un statut de langue officielle. La langue arabe n'a jamais eu de statut officiel en Israël, et c'est la première fois qu'il y a une loi qui lui accorde un statut spécial et reconnu et qui finalement codifie la jurisprudence de la Cour suprême qui, comme je l'ai dit, a rejeté les demandes d'officialiser la langue arabe à plusieurs reprises, mais l'a reconnue comme langue particulière, avec un statut particulier. Donc la loi ne fait que répéter cela. En ce qui concerne, j'ai déjà expliqué également que cette loi ne remplace pas la déclaration d'indépendance, ne remplace pas des précédentes lois fondamentales, mais remplit un vide constitutionnel, puisque il y avait des lois jusqu'à présent fondamentales sur la séparation des pouvoirs et l'égalité des minorités, mais il n'y avait pas de loi sur l'identité du pays. Et lorsque Tzipi Livni aujourd'hui dit qu'il faut revenir à la déclaration d'indépendance, je vous rappelle que Tzipi Livni au début était pour cette loi. C'est uniquement lorsqu'elle est devenue chef de l'opposition qu'elle a commencé à s'y opposer. Encore une fois, cette loi ne contradit en rien la déclaration d'indépendance. On pourrait dire que la déclaration d'indépendance elle-même, d'une certaine manière, n'est pas égalitaire, puisqu'elle dit « nous proclamons un État juif, c'est un État-nation juif ». On appelle au rassemblement des exilés et ne donne le droit à l'autodétermination nationale uniquement au peuple juif, et ce, à côté de l'égalité civique de tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse ou autre. Il n'y a pas de contradiction entre être un État-nation et respecter le droit de toutes les minorités. Évidemment, dans les États-nations, les minorités ne se reconnaissent pas dans les symboles de l'État, mais elles ont les mêmes droits civiques. Les Arabes d'Israël, évidemment, ne se reconnaissent pas dans l'hymne national, mais ils siègent à la Knesset et à la Cour suprême d'Israël. Encore une fois, il n'y a pas de contradiction entre être un État-nation et respecter le droit de toutes les minorités. Dernier point, je souhaite quand même réagir sur ce qu'a dit Sammy Cohen, qui dit qu'il y a là une tendance. Il y a une tendance dans les années 90, Sammy Cohen, lorsque la Cour suprême, de façon unilatérale, sous la présidence d'Aaron Barak, s'est accordé le droit d'abroger des lois sur la base de lois fondamentales, en particulier la loi de 1992, la liberté et la dignité humaine, qui a été votée, je vous rappelle, par 32 députés. Et le droit d'abroger des lois ne figure nulle part dans les lois fondamentales. Cela a été pris de façon unilatérale par la Cour suprême. Il y a eu effectivement cette révolution judiciaire dont a parlé Aaron Barak, a créé un déséquilibre où finalement le dernier mot n'appartient pas au législateur, mais à la Cour suprême. Et il y a un déséquilibre juridique qui a été créé et il y a une volonté aujourd'hui de rééquilibrer la séparation des pouvoirs. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Je pense qu'Israël a besoin, après 70 ans d'indépendance, d'un véritable débat de fond. Je suis pour une véritable séparation des pouvoirs et je suis pour garder l'équilibre entre Israël, État-nation, et le droit des minorités. Mais je vous rappelle que la révolution judiciaire d'Aaron Barak dans les années 90 a été faite de façon unilatérale, sans véritable discussion de fond, et qu'elle a créé un déséquilibre des pouvoirs qui donne le dernier mot aux juges et pas aux élus du peuple.
Sammy Cohen.
Ce que je viens d'entendre, c'est exactement la confirmation de ce que je craignais, de ce que je viens de dire. C'est qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une volonté de revenir sur les avancées démocratiques des années 80-90, notamment sur la capacité dont s'est investie la Cour suprême, de pouvoir déclarer une loi ordinaire comme loi constitutionnelle. Il est vrai que cette capacité n'est inscrite nulle part dans aucun texte. Mais,
Mais
cela étant, la Cour suprême aux États-Unis s'est arrogé le même droit en 1805 selon cette même procédure et la Cour suprême a fait mention de ce précédent américain pour l'appliquer en Israël. C'est, à mon avis, lorsqu'on essaye de voir qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, parce qu'il faut revenir quand même au fondement. Une démocratie, c'est quand même un régime dans lequel les pouvoirs s'équilibrent. Il y a pouvoir contre pouvoir. Il y a une majorité élue au Parlement, par la majorité du pays, mais il est bon qu'il y ait un contre-pouvoir qui est représenté par la Cour suprême, qui défend les minorités, les droits de l'homme, les droits fondamentaux. Les deux sont importants. Il faut une Knesset qui représente la majorité. Il faut une Cour suprême qui puisse constituer un contre-pouvoir à cette majorité. Les deux sont fondamentaux dans une démocratie. Toutes les démocraties aujourd'hui, les plus avancées, fonctionnent sur cette dualité. En France, c'est typique. Le Conseil constitutionnel a quand même une capacité considérable pour remettre en cause des lois qui seraient non conformes à la Constitution. Et là, c'est vraiment important. La question est de savoir, est-ce qu'on veut une démocratie qui fonctionne de manière avancée, avec cette difficulté pour les parlementaires et pour l'exécutif, d'avoir une Cour suprême qui s'oppose. Oui, elle s'oppose. Oui, c'est gênant. Oui, c'est énervant quand on est un député, qu'on a beaucoup travaillé à l'élaboration des lois. Oui, c'est très embêtant. Mais c'est le prix à payer pour la démocratie. C'est ça le prix.
Frédéric Chillot, sur la question des contre-pouvoirs en Israël, est-ce que, de votre point de vue à vous, il y a un problème d'équilibre des pouvoirs et peut-être aussi un problème de confiance de l'ensemble de la classe politique dans sa Cour suprême ?
Je pense que l'opinion, je parlerai plutôt de l'opinion publique. Vous savez, c'est un équilibre très difficile à maintenir en Israël, parce qu'Israël est un État en guerre, il y a de nombreux conflits, il est attaqué de l'extérieur. Il faut maintenir une cohésion dans la société. Et l'opinion a une confiance totale dans Tsahal, et l'opinion a une grande confiance dans la Cour suprême, et vient après la Knesset et très très loin ensuite les partis politiques. Donc remettre en cause l'état de droit, attaquer les libertés fondamentales, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, attaquer, remettre en cause les pouvoirs dans l'État. Et vous savez, avec les dernières affaires judiciaires qui entouraient Netanyahou, il y a aussi eu des attaques contre la justice, des attaques contre la police, contre les juges, des attaques contre les journalistes. Cela fait beaucoup. Et je pense que ça n'est pas bon pour eux. Et l'opinion ne le sent pas comme quelque chose de bon et de sain comme démocratie. Mais vous savez, aujourd'hui, les sondages sont très favorables à Netanyahou. Et par exemple, il y avait un sondage de l'Institut de Walla, qui est un site, un média plutôt neutre. 92% de l'électorat du Likoud est favorable à cette loi. 98% du foyer juif, c'est absolument énorme. Ils sont des sionistes religieux. Je ne pense pas qu'ils sollicitent et ils approuvent la loi parce qu'elle met en cause la Cour suprême ou qu'elle va permettre de modifier les lois. Ils le font parce que fondamentalement, c'est un retour pour eux à la fierté nationale et à la fierté de l'État juif. On revendique notre identité juive et quel est le problème? C'est qu'ici, dans cette loi, on tait totalement la question de la démocratie, le mot ne figure plus, de l'égalité et des minorités. C'est ça le problème. Et eux ne le voient pas.
France Culture, du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon.
Israël, la démocratie est-elle fragilisée? C'est le débat qu'on a encore jusqu'à 19h avec Sami Cohen, Emmanuel Navon et Frédéric Chillot. Je voudrais qu'on en vienne à un lien entre cette actualité, c'est-à-dire le vote de la loi État-nation en Israël qui réaffirme l'identité juive de l'État hébreu. Et puis, le conflit israélo-palestinien. Est-ce que on a encore assisté à des affrontements cette nuit à Gaza, entre Gaza et Israël, des tirs de part et d'autre, 3 morts du côté de Gaza, de nombreux blessés du côté d'Israël. Emmanuel Navon, est-ce que vous pensez que cette nouvelle loi va avoir un impact sur l'état du conflit et puis l'état des négociations, si elles sont encore vivantes, on peut dire, entre Israël et l'autorité palestinienne?
Permettez-moi simplement de préciser que je suis évidemment pour un équilibre des pouvoirs. Je suis simplement pour que cet équilibre des pouvoirs soit agréé à l'avance et agréé de façon constitutionnelle. Et évidemment, il faut que la Cour suprême préserve ses pouvoirs, mais, et je précise mais, il faut qu'il y ait un agrément sur la façon dont la séparation des pouvoirs a lieu. Je vous rappelle simplement, dernière remarque, que en Grande-Bretagne, la Cour suprême n'a pas la capacité d'abroger des lois déjà votées et qu'au Canada, le Parlement peut revoter des lois abrogées par la Cour suprême. Donc, d'après Sami Cohen, j'imagine que la Grande-Bretagne et le Canada ne sont pas des démocraties. Dernier point sur ce qu'a dit Frédéric Chillot, la loi ne remet pas du tout en cause le pouvoir de la Cour suprême. C'est complètement faux. Cela ne figure nulle part dans la loi. Donc, soyons précis, ne racontons pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Sur la question du conflit israélo-palestinien, il y a un lien dans la mesure où la question de la reconnaissance d'Israël comme État-nation est rejetée jusqu'à présent par le leadership palestinien. C'est un sujet qui a été évoqué à de nombreuses reprises lors des négociations dans le passé entre Israël et l'autorité palestinienne. Une reconnaissance d'Israël comme État-nation, cela signifie, par les Palestiniens, cela signifie de facto l'abandon du soi-disant droit au retour que les Palestiniens appliquent aux générations des descendants des réfugiés de 1948. Et comme ils exigent que les descendants des réfugiés de 1948, qui d'après leurs calculs sont aujourd'hui 5 millions, puissent devenir citoyens de l'État d'Israël, eh bien évidemment, si 5 millions de descendants des réfugiés de 1948 devenaient citoyens israéliens, Israël cesserait d'être un État-nation et donc, par conséquent, le soi-disant droit au retour des Palestiniens est incompatible avec une solution de deux États. Et je vous rappelle que lorsque Mahmoud Abbas avait dit « c'est à Israël de se définir comme elle le souhaite », maintenant que Israël l'a fait, Mahmoud Abbas crie au scandale. Évidemment, les pays arabes, les Arabes israéliens qui nient aux Juifs le droit de se définir comme État-nation, évidemment, tous les pays arabes, eux, sont des États-nations, la plupart avec l'islam comme religion d'État. Et donc, on nie aux Juifs le droit de s'autoproclamer comme État-nation. En revanche, les pays arabes, eux, n'ont aucune intention de se transformer en États binationaux ou multiethniques ou multireligieux.
Frédéric Chillot.
Oui. Emmanuel Navon, vous savez que ça n'est pas une loi sur la Cour suprême, mais en revanche, dans les conséquences de cette loi, est-ce qu'elle sera la Cour suprême est saisie, est-ce qu'elle sera abrogée, est-ce qu'elle sera amendée? Vous savez que la ministre de la Justice a déclaré que si la Cour suprême bougeait le petit doigt, eh bien bouger un des articles de cette loi, ce serait la guerre.
Et pour en revenir,
donc évidemment, ce n'est pas sur la Cour suprême, mais c'est une bataille en cours.
Comme il nous reste 10 minutes, je voulais vous entendre aussi sur la question du lien avec et des impacts sur le conflit israélo-palestinien. Comme le disait Emmanuel Navon, sur cette question du droit au retour, est-ce que c'est une des conséquences de la loi sur l'État-nation d'empêcher quelque part, si j'ai bien compris, les Palestiniens de faire valoir un droit au retour?
Alors, cela figurait déjà, de toute façon, dans des lois et dans aussi des attendus de la Cour suprême, puisqu'il y avait des questions de réunification des familles. Et la Cour avait statué en 2006 contre la réunification. Et puis, pour ce qui est du droit au retour, on le sait très bien, même les médiateurs, que ce soit les États-Unis ou y compris les Saoudiens, savent très bien qu'il n'y aura pas de droit au retour. Ça n'est pas une menace aujourd'hui pour l'État. Quant à la question de savoir qu'Israël est entouré des nations arabes, c'est une réalité. Mais vous savez, par exemple, la Jordanie indique les valeurs jordaniennes dans sa constitution. Mais il y a tout de même un article 6 qui parle des minorités, du droit des minorités.
Effectivement, Benjamin Netanyahou avait qualifié cette loi de vitale face au refus des Palestiniens de reconnaître le caractère exclusivement juif d'Israël. C'est ce que rappelait Emmanuel Navon. Sami Cohen, est-ce que vous pensez que cette loi va permettre aux Palestiniens de reconnaître davantage, enfin engager les Palestiniens à reconnaître le caractère exclusivement juif d'Israël?
Non, mais la réponse est clairement non. Il faut se souvenir qu'en 2009, le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a demandé à l'autorité palestinienne de reconnaître Israël comme l'État-nation du peuple juif. C'était déjà une revendication. La réponse a été non, pour une raison très simple. Benjamin Netanyahou avait dit « Je suis prêt à revenir à la table de négociation sous aucune condition ». Mais il a posé quand même une condition. Et Mahmoud Abbas lui a dit « Mais c'est très bien, mais engageons-nous sans condition préalable ». Bon. C'est une affaire délicate entre Palestiniens et Israéliens qui n'est pas résolue et qui ne peut être résolue que par la négociation. Je voudrais revenir simplement sur notre débat concernant les pouvoirs de la Cour suprême. Emmanuel Navon a rappelé deux exemples, l'exemple britannique, l'exemple canadien. Malheureusement, ce sont de très mauvais exemples qu'il a rappelés, très mauvais. Le Canada comporte des contre-pouvoirs en ce sens que c'est un État fédéral et donc chaque État peut s'opposer. Mais surtout la Grande-Bretagne, ce qui est intéressant, qui n'est pas un État fédéral. La Grande-Bretagne connaît des contre-pouvoirs. Le premier, c'est qu'elle a d'abord deux chambres, une chambre basse et une chambre haute, et l'une peut s'opposer à l'autre. Deuxièmement, la Grande-Bretagne est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme et en tant que telle, elle reconnaît la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen britannique peut déposer un recours contre son propre gouvernement auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, et la décision de la Cour européenne des droits de l'homme est obligatoire, ce n'est pas facultatif. Donc il y a deux ou trois contre-pouvoirs en Grande-Bretagne. Le seul contre-pouvoir en Israël, là c'est très important, le seul contre-pouvoir en Israël, c'est la Cour suprême. Si on abat ce contre-pouvoir, il n'y en aura aucun. C'est terminé.
Emmanuel Navon.
Encore une fois, je suis pour qu'il y ait un contre-pouvoir, qu'il soit défini. Et je rebondis là-dessus sur la question que m'a posée Frédéric Chilot. Je rappelle que c'est la Cour suprême elle-même. La décision d'Aaron Barak en 1995 dans l'arrêt Banque Mizrahi qui a déclaré que la Cour suprême s'accordait le droit d'abroger des lois de la Knesset sur la base des lois fondamentales. La Cour suprême s'est accordée ce droit de façon unilatérale, on peut être d'accord ou non, mais en tout cas, Aaron Barak lui-même et de nombreuses décisions de la Cour suprême depuis ont déclaré très clairement que les lois fondamentales avaient valeur constitutionnelle et que la Cour suprême n'avait aucun droit d'y toucher. C'est la Cour suprême qui le dit des dizaines de fois depuis 1995. Donc si aujourd'hui la Cour suprême dit « cela vaut pour toutes les lois fondamentales », sauf pour cette loi fondamentale, eh bien ce sera une politique de deux poids, deux mesures, où la Cour suprême elle-même se contredit, et par conséquent, ça n'est plus du tout un équilibre des pouvoirs, ça n'est plus du tout des règles auxquelles la Cour suprême elle-même se tient, c'est selon le bon vouloir de la Cour suprême, avec certaines lois fondamentales, toutes sont égales, mais certaines sont plus égales.
C'est
la véritable question. Est-ce que la Cour suprême va se contredire ou pas? Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un véritable débat sur les règles du jeu, et elles doivent être inscrites de façon très claire dans les lois fondamentales.
On est en train de rentrer dans un débat juridique un peu complexe peut-être pour tout le monde et qui concerne particulièrement Israël, dont on discute ce soir. Il nous reste 5 minutes, qu'on aborde simplement encore une question qui est celle de la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem, dans cette loi, est aussi réaffirmée comme la capitale d'Israël, y compris dans la partie orientale de la ville. Et peut-être cela fait suite à la reconnaissance par les États-Unis, c'était en décembre, de Jérusalem comme capitale d'Israël. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir, plus d'espoir que cette question de la ville soit réglée à l'intérieur de la résolution du conflit israélo-palestinien, Sami Cohen?
Non, c'est véritablement la fermeture de toute possibilité de négocier l'avenir de Jérusalem dans un éventuel accord de paix. Une première fois, la porte a été claquée par la décision de Donald Trump, qui n'est pas une décision aussi rédhibitoire que la déclaration, de la clause qui est reconnue dans la loi fondamentale qui vient d'être votée, qui est une fin de non-recevoir aux Palestiniens. Vous n'avez absolument aucun droit sur la ville. Vous n'avez pas de droit sur la terre d'Israël. Vous n'avez pas de droit sur la ville Jérusalem. C'est un niet catégorique. Et donc, en ce sens-là, je ne vois pas comment, un rapprochement est possible entre Israéliens et Palestiniens.
Frédéric Chillot, sur la question de la ville de Jérusalem, le sort de la ville désormais est scellé.
Vous savez, pour les Israéliens, de toute façon, cette loi ne va rien changer. Israël, Jérusalem est la capitale d'Israël. La décision a été prise par Ben Gurion. Depuis 1949, c'est le siège de toutes les grandes institutions, la Knesset, la résidence du Premier ministre, du Président. Pour les Israéliens, on n'a même pas attendu non plus les années 80 et la loi de Begin. Après 67 l'occupation de Jérusalem-Est, on n'a pas attendu cela pour considérer Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est dans les détails en réalité. Là, il est question de Jérusalem unifiée, Jérusalem capitale unifiée, d'accord. Vous savez qu'il y a eu des lois qui ont été passées au début de l'année pour modifier les frontières municipales de Jérusalem, parce que Israël, quand même, dans l'idée qu'il y a des quartiers dans lesquels les Israéliens, les Juifs israéliens ne se sentent pas chez eux. Ce sont des quartiers arabes où ils ne vont pas, où ils ne viennent pas. Et donc, il y a eu une législation de fait pour s'en débarrasser plus facilement et par contre, en revanche, pour récupérer des quartiers de colonisation et agrandir la Jérusalem Ouest.
On arrive à la fin de l'émission, vous entendez le générique sous vos propos, Frédéric Chillot. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette discussion. Merci Sami Cohen, Emmanuel Navon, vous étiez au téléphone depuis Tel Aviv, et merci à vous Frédéric Chillot en duplex depuis Jérusalem. La réécoute de cette émission et de toutes les autres, c'est à la page du Grain à Moudre d'été sur franceculture.fr. L'émission était préparée par Imen Melaz, Laila Saidi, Copelia Ménardi, Marine Lerouge et Isulte Sicard. Réalisation Alexandra Longuet, prise de son Anthony Thomasson et Jean-Guilain Mej. Et puis merci beaucoup aussi à Marie Semelin pour le duplex depuis Jérusalem. On se retrouve demain à 18h15 avec cette question: faut-il exterminer les moustiques?